En fait, c'est le grand don. C'est qui tu veux faire quelque chose et qui tu dois travailler pour ça. Ça, c'est le don qui va te rendre un artiste. Au fur et à mesure que tu travailles sur ce que tu aimes, c'est que tu découvres et que tu as quelque chose à dire. Parce que si tu étais né natural born, tu chantes tellement merveilleux, tu joues tellement merveilleux, tu comprends même pas ce que tu as dans les mains.
Bonjour, c'est Anne B. Vous êtes sur Storylifique, le podcast qui vous propose de faire du bien à votre esprit tout en faisant du bien à la planète. Et ce jour, je vous présente un coup de cœur de cette rentrée. Je vous avais promis des dévoreurs de vie, et bien Odette Caffrey en est un, il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai découvert ce batteur hors norme lors d'un de ses concerts et j'ai tout de suite su que ce musicien était réellement habité. Je lui ai proposé de passer sur le podcast à la fin de son concert, il a accepté et vous le verrez, ce n'est effectivement pas n'importe qui. Musicien bien établi dans son pays Israël, ce qui n'est déjà pas banal, il y a plusieurs fois fait table rase dans sa carrière pour suivre sa petite voix, cette intuition qui lui a toujours indiqué le chemin pour suivre sa passion dévorante pour le rythme. S'il est déjà passé plusieurs fois dans des fameux événements comme le TEDx, il a joué avec de grands noms également, mais il délaisse volontiers la scène pour la rue, l'endroit où un musicien peut vraiment partager des rencontres et une vibe unique. Odette s'est mis à la batterie plusieurs fois dans son studio lors de l'enregistrement, alors amateur de musique et de rythme. Bon, je pense qu'on l'est tous. Restez bien avec nous, cet épisode est fait pour vous. Bonjour Odette.
Bonjour Anne-Bé, comment vas-tu?
Très bien, et toi-même?
Pas mal du tout, merci.
Donc aujourd'hui, on est en direct de Hambourg, où habite le musicien Odette Caffrey. Est-ce que tu peux te présenter?
Oui, je m'appelle Odette Caffrey, j'ai 45 ans, je suis né à Tel Aviv, Israël. Mon premier métier, c'est batterie, je suis batteur. Je joue la batterie depuis 35 ans. Et mon démarche est un peu pas normand, qu'est-ce que c'est une démarche normand? Je suis batteur, frontman, entertainer.
Raconte.
Mon mémoire de moi, c'est en tant que gosse de 5 ans, peut-être, s'est défoulé dans le salon de mes parents en écoutant un groupe de rock d'Israël qui s'appelait Islam. Et je cours et je saute et je fais les shows pour tout le monde. Je suis le showman, je chante et c'est le concert. Et j'étais très passionné de musique très tôt. Je me rappelle avoir me dire à mon père, il m'a fait écouter un groupe qui s'appelle Blood, Sweat and Tears et il m'a fait écouter Pink Floyd. Et je lui dis, papa, je sens la musique tellement fort. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, je sens la musique. Et quand j'avais 10 ans, je voulais avoir une batterie. Parce que mon grand frère Barak était passionné des batteries. Il m'a dit toujours, regarde le batteur, regarde comment il est le plus fort, il est le plus... Il a la plus d'autorité dans le groupe, le batteur, c'est le cool. Et moi, donc, je voulais, comme mon frère, lui, il a appris un peu de batterie, moi, je voulais aussi apprendre la batterie. Mais on ne m'a pas acheté une batterie tout de suite. Mon père, il m'a loué une batterie pour voir si j'allais continuer. J'ai eu une chance, c'est qu'il y avait le bomb shelter, l'abri chez nous. Parce qu'en Israël, à chaque maison, il y a un abri. Et là-bas, je pouvais pratiquer la batterie, ce qui a vraiment déplairé notre voisin Avram, qui voulait me brûler la batterie.
Pourquoi? Même dans un abri anti-bombe, le son passait quand même?
Bah oui, son acoustique, ça. Et puis ma sœur qui voulait dormir le samedi matin, et moi, j'avais hâte de pratiquer. Elle s'est réveillée, m'engueulait, me tapait dessus. Bon. mais quand même, j'ai eu le support de mon père et je pouvais pas mal pratiquer. C'était une grande privilège d'avoir ça. Mais quand même, au début, j'ai pas. Voilà, il m'a loué une batterie et puis il a retourné la batterie à l'occasion parce que j'étais pas sérieux. Alors qu'après quelques mois, j'ai dit, je suis vraiment sérieux, achète-moi une batterie. Il m'a acheté une petite batterie et j'ai commencé. Mais j'étais pas encore très sérieux jusqu'à. Un jour très important, on avait un festival de musique dans les scouts. Et moi, j'ai mené ma batterie et je pensais que j'allais être cool. Mais il passait des choses en même temps. J'ai rencontré un gosse de mon âge qui était beaucoup mieux qu'à moi à la batterie. Il m'a fasciné comment il a joué. Il m'a fasciné. On est devenus bons amis. Il m'a appris beaucoup de choses. Il s'appelle Gilad Shmueli, qui est toujours un musicien actif en Israël. Et moi, j'ai accompagné mon groupe Et eux, ils étaient devant en train de chanter. Et moi, je me sentais attrapé par la batterie. Mm-hmm. Je me rappelle ces deux sentiments. Que la batterie, elle me fascine, mais que aussi j'ai besoin d'attention du public. Et je pense que ça, ça signifie où je suis. Je suis un batteur, mais qui a parfois du mal à être derrière la batterie sans la communication, sans la communication avec le public. Et donc, j'ai passé un très long chemin jusqu'à ce que j'ai trouvé un moyen, et c'est le spectacle de la rue. Parce que quand tu fais le spectacle de la rue avec la batterie, d'abord, la batterie, elle attire beaucoup de gens de beaucoup, beaucoup de coins de la ville. Et deuxième, la scène est à toi, tu n'es pas caché derrière un chanteur. Et donc, tu attires les gens, ils sont attirés, et puis là, c'est ton show, et tu leur prouves que la batterie est un instrument fascinant, qu'ils n'avaient peut-être pas pensé que ça allait être tellement intéressant. Et puis, tu es le frontman.
Mm-hmm. Ben moi, c'est comme ça que j'ai donc fait ta connaissance. Hein. Tu es passé ici à Namur, et tu as joué pour un public qui était de plus en plus enthousiaste, chauffé, ça c'est clair. Et je me suis dit, mais il est habité celui-là, c'est pas possible, il y avait quelque chose qui se passait. Et je me suis dit, ok, heureusement, c'est assez sportif ce qu'il fait, c'est outdoor, puisque ça c'est mon podcast d'habitude. Mais c'est surtout, voilà, j'ai très envie que les gens aient moins peur d'aller vers leur passion, osent. Et toi, c'était visiblement ça, t'étais en train de vivre ta passion, mais alors là, à du 200%. Et je me suis dit, ça peut faire un super épisode, et je t'ai invité, t'as accepté, je t'en remercie énormément. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait cet épisode-ci aujourd'hui. Et ben aussi ton parcours est hyper intéressant, parce que comment c'est de grandir en Israël maintenant que tu as une approche de comment c'est d'être en Europe. Tu as beaucoup voyagé, donc tu as vécu en Angleterre, tu as vécu ici en Allemagne, tu as vécu dans beaucoup d'autres pays, on va un peu refaire ton parcours. Mais donc grandir en Israël pour nous, petits Européens, comment c'est?
En fait, c'était assez super parce que il y avait le soleil, il y avait on habitait dans un coin assez tranquille. Tu peux te balader moitié nu avec juste un caleçon et tu vas dans les rues de la ville. Tu parles avec des gens et c'est un peu free. Il y avait le kibbutz de mes grands-parents, une heure de chez nous. Un kibbutz, pour ceux qui ne savent pas, c'est une communauté où les gens vivent ensemble et ils partagent ce qu'ils ont. Donc, cette kibbutz était dans un endroit totalement merveilleux sur la plage du nord d'Israël. Et ça, c'est aussi une notion de liberté. Et bien sûr, qu'en tant que gosse, tu es né en Israël et tu commences petit à petit à comprendre l'histoire. Tu commences à comprendre que tes grands-parents ont perdu toute leur famille dans une guerre et tu ne sais pas trop de quoi il s'agit, mais tu comprends ça. Et tu comprends que ton pays, il est en train de se battre pour son existence. Tu comprends que toi-même, tu vas être soldat. C'était mon rêve d'être un soldat. À la fin, je ne l'ai pas fait parce que quand j'avais 18 ans, j'avais d'autres priorités. Mais tu as grandi avec cette notion de « on est... » Je voudrais dire patriotisme, mais ma mère, elle représentait le patriotisme qui était beau. Et c'est possible d'avoir du patriotisme qui est beau, d'être zioniste sans vouloir, disons, détruire quelqu'un. Ça, c'est, je regrette qu'aujourd'hui, quand on dit le mot zioniste, on parle déjà de quelqu'un qui occupe des territoires des autres. Ça, c'est pas vrai. Il faut... Oui. Dire qu'il y a beaucoup de gens, la majorité des gens en Israël, dont mes parents, qui veulent vivre dans leur terre, qui aiment l'Israël, qui ont le droit de vivre en Israël après tout ce qu'on a passé, mais qui cherchent aussi une solution. Oui, donc, j'aurais dire, autant que gosse, cette notion de qu'on est là, que c'est un moment spécial, qu'on a finalement, on a notre terre, et on va faire nos réunions avec des moyens de paix, pas de la guerre. D'accord? Mm-hmm. Il faut faire attention à ça. Et aujourd'hui, je suis très remerciant et je suis très en paix avec mon pays et je l'aime beaucoup et il me manque beaucoup parce que je serai toujours fish outside the water. Je suis en ce moment, je nage dehors de l'eau parce que c'est ma vocation de voyager le monde et de m'épanouir. Mais je ne suis pas le genre à dire... J'ai quitté, je ne retourne pas. Non, je suis israélien, toujours été et toujours serai.
Mmh, oui, d'accord.
Très fier.
Donc toi,
Non, je suis fier. C'est bien d'être fier d'être belge. C'est bien d'être fier d'être Is. Mais dans le bon côté, sur le bon côté qui nous représentons. Je pense que c'est important.
Oui. Tout à fait. Et donc, tu es parti avec ta famille en France.
À Paris.
C'est ça? Oui, tu avais quel âge?
16 ans.
16 ans.
La grosse claque, la grosse baffe de ma vie.
Oui.
J'arrive à Paris, personne ne parle anglais. J'arrive à Courbevoie, c'est 92 à côté de Paris, une ville, je trouve, assez triste, avec des gros immeubles à côté de la Défense, avec une notion un peu d'alienation. Mais j'ai eu la chance que je pouvais pratiquer dans le conservatoire de Courbevoie avec des super batteries. Et j'avais un prof qui s'appelait Jean-Yves Caillet qui m'a beaucoup appris. Et donc là, j'ai commencé à me mettre 8 heures par jour à pratiquer la batterie comme un fou, et voyager à Paris, voir tous les super musiciens qui passaient, les Américains, les Français. J'ai rencontré mon prof de batterie, Georges Pazanski, qui m'a appris le jazz au Conservatoire National de Cergy-Pontoise. J'ai appris chez Dante Agostini, j'ai fait mon diplôme, c'est une école assez connue à Paris. Et puis, bien sûr, je fréquentais les clubs, j'allais voir des jam sessions, je jouais dans les jam sessions, je me faisais jeter des jam sessions, je jouais dans des groupes.
Pourquoi tu te faisais jeter?
Parce que j'étais tellement... Tu connais le mot chutzpah? L'israéli chutzpah, tu connais ça? C'est l'audace.
D'accord.
J'avais 16 ans, j'étais un batteur de rock et j'ai dit, bon, ok, je suis à Paris, je vais aller dans les clubs de jazz. Et je jouais trop fort et pas dans le style. Les gens, ils sont des traits de jazzeux, tu vois, genre... Et moi, Robert, viens, joue la batterie, le petit là. Et puis, c'était très, très dur. Prendre le bus de la nuit à 10h du matin, des Châtelet jusqu'à Courbevoie, en avant des grands doutes sur mon talent. C'était des moments... Mais petit à petit, j'ai fait mon parcours. Il y a plus et plus de musiciens qui m'avaient repéré, notamment Hassan Keita, un musicien africain qui m'a invité à jouer avec son groupe. C'était une super expérience parce que lui, il vient de Côte d'Ivoire et il avait beaucoup de savoir sur le rythme africain et le reggae. Donc, musique africaine, musique de rock, musique de jazz. Et puis là, arrivait en fait la première prestation dans la rue.
Oui, c'est ça. Raconte-nous un peu cette fête de la musique qui avait très mal commencé et qui s'était terminée en apothéose.
J'avais 19 ans et fête de la musique 21 juin. Bon, chez vous, il ne faut pas le dire, mais dans le monde, il faut. Quand je raconte l'histoire, je dis, vous savez, le 21 juin, c'est le fête de la musique. Il y a musique partout. L'année d'avant, j'ai joué avec deux groupes. Mais cette année, personne ne m'appelait parce que ça tombe comme ça, c'est le show business. Et j'étais dans le conservatoire de Courbevoie en train d'être totalement vexé et déprimé. Parce que comment est-ce que c'est possible que moi qui je joue 8 heures par jour, je pratique, je rêve, j'en donne du mal, pourquoi on ne m'appelle pas? Et j'ai eu les larmes aux yeux et je ne pouvais pas supporter ce moment. Mais des minutes après, j'ai dit, j'attends personne, moi je vais aller jouer tout seul. Donc, je n'allais pas vraiment tout seul. J'ai appelé mon pote Alexandre Katarsi de Courbevoie, qui est un super ami qui jouait les percussions. Je lui dis, Alex, est-ce que tu es prêt? Je viens venir te chercher. J'avais déjà le permis de conduire. Mon père, il avait un 4x4 Suisse de Toyota, donc on pouvait tout mettre dans la voiture. Je dis, je viens te chercher, on va aller jouer seul dans la rue de Paris. Il me dit, mais non, t'es fou, qu'est-ce qu'on va faire? Mais non, qu'est-ce que tout seul, non? Je dis, on va faire ça. On a pris la voiture, on a mis la batterie au boulevard Saint-Germain-du-Pré, Saint-Germain. J'ai fait seulement le soundcheck et Alex y allait se garer la batterie. Et il raconte ça, il a dit, je vais garer la batterie, je reviens, je vois la foule. Je dois me bousculer pour entrer, tu vois. Et Odette, il joue déjà. Et je te jure, cette nuit, elle passait tellement vite. C'était genre, on a joué sans arrêt. Et le public, il nous a encouragés. Il aimait ce qu'on faisait. Et c'était incroyable. Et en fait, ces moments-là, quand tu dis, bon, je n'ai pas un titre aujourd'hui, je joue pas, je ne suis pas le batteur de quelqu'un. Je suis un batteur et je m'amène comme ça aux gens. S'ils aiment, super, sinon... Et puis là, tu es totalement exposé, mais voilà, ça s'est bien marché. Et c'était un moment de rêve, mais je ne savais pas que ça allait être ma vocation. J'ai essayé plusieurs fois après de jouer à Paris, mais c'était interdit. Et moi, j'ai eu cette rêve d'être un musicien session player, d'être le batteur que tout le monde appelle, qui joue, qui fait le truc. Et à 21 ans, j'étais déjà dégoûté de la vie des musiques à Paris. Et j'avais besoin de trouver ma identité en tant qu'être humain. Et j'ai fait le bon choix. J'ai retourné en Israël. Et j'ai retourné en Israël. J'étais assez cassé. Mais en fait, en Israël, petit à petit, je me retrouvais avec des gens de mon âge, des musiciens, avec qui j'ai eu un langage, avec des amis. À Paris, j'ai eu des amis, j'ai eu des rapports, mais il y avait quelque chose, pour un jeune homme de 16 à 21 ans, c'était, pour moi, c'était pas naturel. Je me sentais jamais à l'aise, socialement. Et c'était absolument, c'est un sentiment personnel. Et en Israël, à 21 ans, c'était super. J'ai commencé à jouer avec des gens, j'ai commencé à apprendre la musique classique, je faisais tas de choses. Petit à petit, j'ai eu des travaux dans le théâtre, des travaux dans la télévision. Et je m'établissais, mais j'ai toujours essayé ce que j'ai goûté à Paris. Cet goût des mondes, cet goût de liberté, des richesses culturelles, ça m'a manqué en Israël. Donc je l'ai toujours cherché. Donc je faisais mon parcours en Israël en tant que session musician, mais il me manquait. Et à 28 ans, je ne sais pas comment, j'ai pris la décision d'aller voyager en Afrique. J'ai dit, je dois y aller. Et j'ai réussi à économiser l'argent. Et j'ai pris un billet d'avion. Et j'arrivais à Ghana, à Accra, où j'avais un collègue musicien qui m'a hébergé. J'ai passé un mois et demi à Ghana. Après, j'ai continué vers le Burkina. J'ai arrivé à Mali. Et à Mali, je suis resté à Bamako parce que je voulais rencontrer Salif Keita. Le fameux chanteur africain. Et en fait, petit à petit, je m'approchais à lui. J'ai trouvé quelqu'un qu'il connaît. J'ai trouvé quelqu'un qui connaît son fils. J'arrivais à voir son fils, qui était très sympa. Et il m'a dit, oui, je peux te représenter mon père. Et il m'a dit, demain, on va à son hôtel. Donc, quand j'ai appris que j'allais le lendemain rencontrer Salif Keita, j'ai appris par cœur une chanson à lui qui s'appelle Tekere. J'ai appris ça dans une nuit sans comprendre ce que je chante. Mais lui chantait cette chanson. Mmh. On a voyagé dans l'hôtel de Salif Keita qui était à Bamako, mais à la fin du monde, au bout de l'autre côté de la ville. Et lui, il était très sympa. Il m'a accueilli. On est allé dans un petit île. On a parlé. Et puis, lui, il chantait la chanson. Très sympa. C'était mon héros. Et j'ai passé un après-midi avec lui. J'ai même joué avec lui à une chanson la nuit. C'était très cool. Et il s'est passé plein de choses, plein d'aventures. J'ai beaucoup aimé. En fait, je me sentais très, très appartient en Afrique. C'est-à-dire s'asseoir sur le toit avec les gars, tchatcher, causer, faire la musique, aller dans une soirée. Je me sentais totalement appartient. Je ne sais pas comment expliquer ça.
Comment ça se vit, la musique? Comment c'est d'être un drummer en Afrique?
Oui, alors chaque batteur, il est danseur, et chaque danseur, il est batteur. Ça, c'est aussi... chaque musicien, il est danseur. Encore une fois, comme il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas des choses unnaturelles qui font... C'est pas que tu racontes musicien qui te dit « Ah oui, va sur mon website, écris-moi un mot. » Non, tu le racontes, tu le vois. C'est ça, quoi, tu vois. Soit on joue, soit ça joue, soit ça ne joue pas. Il y avait une approche très directe et très, j'aurais dit, honnête vers la musique. Tu vois des gens qui jouent pendant des mariages le dimanche de midi jusqu'à 22h du soir avec une chaleur impossible. Et ils jouent. Ça m'a beaucoup impressionné. Cette histoire de qu'on se met dans une transe physique où la tête, elle arrête à déranger. Tu dépasses la pensée. Tu es seulement dans la musique, dans la créativité. Et ça, c'est une des choses les plus importantes parce qu'en fait, quand tu penses à ça philosophiquement, il n'y a pas de raison d'être musicien ou d'être un artiste. C'est un combat. Tu dois toujours te battre pour se faire apprécier par la société, pour gagner ta vie. Et en fait, si tu tombes sur cette piège de overthinking, de penser trop,
Ouais, des pensées qui tournent en rond.
Tu perds la création. Et donc, mm-hmm. tu dois aller au fond. Et j'ai rencontré une personne très importante dans ma vie en Israël, parallèle à cette période. C'est une femme qui s'appelle Naomi Perlov, qui est une prof de danse, qui d'ailleurs fait la mise en scène pour un chorégraphe assez connu de la France qui s'appelle Préjocage. C'est un chorégraphe de néoclassisme. Et elle, mm-hmm. elle travaille avec lui, mais elle est prof de danse et une personne assez connue dans le monde de danse en Israël. Et elle m'avait reparé en tant que batteur en Israël dans cette période. Et elle m'a invité à jouer dans ses cours de danse et elle m'a fait jouer. Oui, elle m'a donné des instructions. Ça me rappelle un peu cette anecdote que mon père il m'a rencontré par rapport au champion de la natation, Mark Spitz. Il avait un coach qui avait une autre attitude. Il lui dit, saute dans l'eau et nage. Tu vois? Mm-hmm. C'est-à-dire, oui, la technique, tout ça, c'est important, mais laisse-toi aller. Tu vois? Et je pense mm-hmm. que Naomi, elle a fait la même chose avec moi. Elle m'a dit, joue. Parfois, elle m'a dit, hey, il faut varier, c'est trop, c'est, oui, elle est un caractère folle, et moi aussi, donc on s'entendait bien. Mais il y avait, sur ces leçons, il y avait cette histoire, parfois 3 heures, ils dansaient sans arrêt, et moi, j'ai joué. Et de cette situation là venait cette idée de Rhythm for Dancing Lessons, qui est mon premier album. Donc, j'ai fait un Rhythm for Dancing Lesson 1, et là, j'ai parti en Afrique en sachant que je vais aller faire le deuxième qui va être l'officiel album pour le Rhythm for Dancing Lessons.
Donc, les rythmes pour les leçons de danse en ouais. français.
Et ça a vachement marché chez les profs de danse en Israël. Et en fait, c'est toujours mon album de musique instrumentale que j'ai enregistré.
Ouais. Il sera peut-être temps de montrer un peu justement ce que c'est ta musique. Donc ici, on peut essayer de faire un petit extrait.
Tu voudras que je joue maintenant ? Oui,
ouais. Okay.
On va faire. Donc, on a parlé d'Afrique, alors.
Oui. Super.
Merci beaucoup.
Comme ça, maintenant, les gens verront de quoi on parle.
Oui, c'est vrai.
C'est super chouette. Tu as déjà fait aussi des sessions en Afrique avec plusieurs drummers, je suppose. Quand,
oui.
Quand ça s'échange, quand ça se renforce, quand ça se répond, quand ça, tout à coup, c'est ensemble.
C'est toujours
ça doit être extraordinaire.
Mon projet Drum the World, ça a fait avec toujours la communication entre batteurs. Et oui, donc l'album Rhythm for Dancing Lessons Volume 2, il y a beaucoup de percus et de batteurs qui participent. Et puis, je suis toujours fasciné par la communication entre batteurs. C'est-à-dire, il faut faire gaffe, la batterie, c'est un instrument qui peut très facilement devenir un instrument de frime mm-hmm. ou bien un instrument de guerre. Et j'ai entendu dernièrement quelque chose d'intéressant. J'ai joué avec une percu et une femme. Sylvia, qui joue la percussion ici à Hambourg, elle m'a dit qu'elle a trouvé que souvent les batteurs, ce sont des gens qui, dans leur enfance, ils devaient se battre. Ils avaient à faire avec avec l'agressivité intérieure ou dans la famille. J'ai trouvé cette remarque intéressante. Donc, moi, quand je dis au batteur, on joue ensemble, tu vois, c'est... En fait, avec cet instrument de guerre, on peut faire beaucoup d'amour si on est bien réglé dans la tête. Et c'est ça.
Ouais.
Parce que c'est un instrument de guerre aussi. Ou bien, j'imagine, on peut imaginer que le premier tambour était créé pour faire peur aux animaux qui ne s'approchent pas aux êtres humains. Et après, pour communiquer des nouvelles d'un village à l'autre. Mais souvent, oui. Donc, cette semaine-là, je suis de retour à... Dernièrement, j'ai investi tellement sur mon chant. Mais là, j'étais invité dans un festival des batteurs à Dresden il y a une semaine. Et cette prestation que je donnais, les batteurs que j'ai vus, m'a fait encore... Et ça m'arrive toujours avec la batterie. C'est genre, je m'éloigne jusqu'à ce que je me perde. Et là, boum, OK, qu'est-ce que tu es? Tu es tout d'abord batteur. Ta méditation, c'est la batterie. Ta raison d'être, c'est la batterie.
Mm-hmm. C'est vraiment dans ton ADN, quoi.
Je voudrais dire, tu as dit que le but de ton podcast, c'est peut-être de faire, transmettre aux gens qui ont une passion, mais qui ont peut-être doute ou peur d'y aller jusqu'au fond. Alors moi, mon parcours, il est par rapport à ça, c'est que j'ai arrosé cette passion sans arrêt. Et il n'y a pas d'autre choix. Comme il dit notre ami Jacques Brel, c'est quoi le talent? Le talent, c'est qu'un homme, il constate qu'ils vont manger un homard. À ce moment-là, il a le talent de manger cet homard. Tout le reste, c'est de la sueur. Le talent, je ne sais pas ce que c'est. Les artistes, je ne les connais pas. Donc, moi vraiment, j'étais toujours un peu enfant gâté, genre, oh, pourquoi je ne suis pas si doué que ça, que je peux déjà jouer la batterie superbement, tu vois? Pourquoi je ne chante pas naturellement tellement bien? Eh ben non. En fait, c'est le grand don. C'est qui tu veux faire quelque chose et qui tu dois travailler pour ça. Ça, c'est le don qui va te rendre un artiste. Au fur et à mesure que tu travailles sur ce que tu aimes, c'est que tu découvres et que tu as quelque chose à dire. Parce que si tu étais né natural born et tu chantes tellement merveilleux, tu joues tellement merveilleux, tu ne comprends même pas ce que tu as dans les mains. Tu ne comprends même pas ces dons. Et souvent, ces gens-là, ils sont en train d'abîmer leur talent. Ou bien ils vont pas jusqu'au bout. Tu vois?
Ouais. Moi, j'aime bien. C'est marrant parce que je viens de terminer un épisode là maintenant avec Benjamin de Molien qui est éco-aventurier. Et donc, il disait aussi dans l'aventure, bon, lui, il essaie de vivre, de transmettre cette passion de la nature par l'aventure. Et il dit, c'est pas facile tous les jours, faut pas vendre du rêve. Ça, c'est, tu me l'avais dit aussi en prépa. Mais la construction, c'est tellement, on se sent tellement aligné avec ce qu'on veut être, c'est ça qui compte, quoi. J'avais bien aimé quand on préparait, tu m'avais dit aussi, c'est pas parce qu'on a une vocation que tout est facile. Tu m'as dit, être soi, c'est être courageux. C'est vrai, tu as dû avoir pas mal de courage plusieurs fois dans ta vie, on en parlera notamment pour le départ pour l'Angleterre. Et après l'Afrique, tu m'avais dit un truc très très chouette aussi. Tu dis, voilà, ça recoupe ce que tu viens de dire, hein, the power of will is stronger than the power of skill. Le pouvoir de la volonté est plus fort que le talent. Que le pouvoir du talent. Donc c'est vraiment la volonté qui va faire la différence entre les parcours des gens. Et ça, je le vois dans absolument tous les domaines. J'en suis de plus en plus convaincue à chaque rencontre.
Oui, ça c'est Muhammad Ali. The power of will is stronger than the power of skill. Qui je l'avais découvert en Afrique. J'ai eu passé un moment chez mon pote Nana Dazi à Ghana. Et tout d'un coup, je recevais une vidéo de cette histoire de ce grand combat de Muhammad Ali contre George Foreman en Afrique, alors que je suis en Afrique. Je suis quelqu'un d'obsédé, c'est-à-dire qu'une chose me plaît, je suis obsessif. Si un film ou quoi que ce soit, donc je regarde beaucoup, j'apprends. Donc, j'ai regardé beaucoup ce film, j'ai appris beaucoup Muhammad Ali. Et lui, c'est le maître de s'encourager soi-même. Tu peux le concevoir comme un gros prétentieux, mais en fait, il n'est pas prétentieux. Il était en train de dire à lui-même, le monde et son adversaire, sa raison d'être. I am the greatest. Il se répète. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il y a dans notre, la façon dont on était fait comme être humain. Quand tu ne fais pas attention, il y a tellement de mauvaises pensées qui arrivent. Bon, pourquoi? Moi, je pense que c'est très profond. Moi, je pense que nous, en tant qu'êtres humains, on est très influencés parfois des choses qui s'est passées. Je crois qu'on parle de 7 générations en arrière. Donc, moi, aujourd'hui, 2 ans et demi après que j'ai commencé ma psychoanalyse qui se termine cette semaine, j'ai appris beaucoup sur moi-même. Pourquoi il y a des choses? Pourquoi il y a des voix dans ma tête que j'entends? Pourquoi j'ai des angoisses qui ne sont pas la mienne, qui ont à voir avec ma famille, qui ont à voir avec ma mère, mon père, ma grand-mère, mon grand-père? Et donc, Muhammad Ali, en tant qu'un noir en Amérique dans les années 60, devait insister qu'il était beau, qu'il était fort, qu'il était intelligent. Et il avait besoin de dire ça à voix haute. Oui, on a tous besoin de dire des choses à voix haute. Et je me trouve dernièrement, d'ailleurs, j'ai fait un parcours où, quand j'ai besoin de dire quelque chose, même aujourd'hui dans le podcast, je n'ai pas honte et je n'essaie pas d'être modeste. Oui, j'essaie d'être franc. Et si je fais quelque chose, et si j'atteins quelque chose, je le dis à voix haute à moi-même et à toi et à les gens qui entendent ça, parce que c'est important de l'entendre. Parce que sinon, il y aura des voix à l'intérieur qui vont devenir et qui vont l'annuler.
C'est qui tu as déjà atteint.
C'est comme ça. Et cette vie, elle est faite comme ça. Elle est faite tout le temps des hauts et des bas, des rencontres qui marchent bien, des rencontres qui marchent moins bien, tu vois. Et cette histoire d'encourager soi-même, ouais, extrêmement important. Et c'est pour ça que Muhammad Ali, c'est le plus grand maître, c'est le greatest of the greatest.
Ouais, ouais. Tu m'avais expliqué ça en préparation un peu. Donc, we are the greatest at being ourselves. On est les meilleurs à être nous-mêmes parce qu'il n'y a que nous qui pouvons être nous-mêmes et qu'on est aussi heureux que quand on peut vivre sa vocation, quand on exploite son potentiel. Sinon, on n'est jamais en paix. Ça, tu me l'avais dit aussi. Et c'est toujours en lien avec cette citation et j'ai retenu parce que j'ai trouvé ça tellement vrai.
Merci.
C'est pas facile, mais on n'est pas en paix si on ne suit pas ce chemin. De nous-mêmes.
Oui, je pense que... Moi, je crois que... Bon, idole, j'aime pas trop ce mot, mais j'ai eu des gens qui me guident. Tu vois, donc c'est Muhammad Ali, c'est Jacques Brel et Bob Marley, avec son message très simple et très juste, avec 2-3 accords. Et il y a bien sûr d'autres, et c'est pas seulement des artistes ou des sports, c'est des philosophes. Oui, voilà.
Alors après l'Afrique, tu es retourné en Israël pour te rendre compte que finalement tu devais bouger, tu es parti en Angleterre et là tu as dit le plus dur, c'est pas d'arriver en Angleterre, c'est de partir d'Israël.
Oui. En fait, quand je suis retourné en Israël, j'ai eu la chance de commencer à tourner avec un chanteur israélien qui s'appelle David Eor, qui avait une offre à aller jouer dans le festival de musique du monde de Peter Gabriel à côté de Londres. Et moi, c'était foi. C'est mon rêve d'aller, de jouer dans le cadre de Peter Gabriel. Waouh! Donc, on a commencé à tourner avec lui. En fait, le premier concert qu'on a fait à Reading, en Angleterre, moi, j'ai compris que c'est ici, il faut que je bouge, que je vienne ici, en Angleterre. Et j'ai pris cette décision et ça m'a fait beaucoup peur. Ma mère, elle a décédé 1 mois et demi après que j'ai pris cette décision. Mais moi, j'étais mon vol, il était déjà en train de se décoller. C'est-à-dire que sa mort, qui était quelque chose de grave et tragique, ne m'a pas attiré vers le bas. Contrairement, il m'a donné cette notion de « bon, you are on your own ». Je suis parti et il faut que tu continues ton chemin. Et il se passe toujours dans ma vie des choses incroyables qui m'expliquent que cette histoire-là, cette voix que tu entends dans la tête qui te dit « vas-y, bouge ». C'est dur, mais vas-y, bouge, va. Il y a toujours une justification. Par exemple, en 2011, j'ai joué dans la rue à Leicester sans savoir pourquoi et pour qui. Et il y a des mois et demi que j'ai rencontré quelqu'un qui me supporte via Patreon. Toi aussi, tu as un Patreon.
Oui,
donc,
oui,
via
oui.
Patreon, et c'est incroyable. Et il me dit, oui, je t'ai vu en 2011 et j'aime tellement ce que tu fais. Et il me supporte vraiment considérablement. Il m'aide avec ma carrière et c'est quelque chose d'incroyable. Et il s'est passé tellement de choses depuis ces moments où j'ai décollé, où j'ai dit, vas-y, essaye.
Et donc, tu dis qu'en Angleterre, ce qui a été assez fondateur pour toi, c'est d'aller mettre ta batterie dehors. Par exemple, tu as un souvenir à Piccadilly Circus.
J'arrive en Angleterre à 32 ans et je me rappelle que les gens en Israël m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Tu as toute ta vie ici en Israël, tu as établi une carrière, tu as du travail. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? » Moi, j'ai dit « Je ne sais pas, je vais essayer de jouer avec des grands noms, notamment Sting, qui était toujours mon rêve d'être son batteur, Peter Gabriel, mais je vais aussi développer ma carrière de soliste. » Je disais « Je ne sais pas, mais je sais qu'au début, il y aura des grands silences. » Et en fait, oui, tu arrives dans un endroit nouveau, il n'y a personne qui t'attend, tu as quelques connexions, bon, notamment la communauté juive qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Ils m'ont offert des travaux dans le groupe de mariage juif et ça, c'était vraiment incroyable. Et j'oublierai ça jamais. Donc, voilà, je faisais ce que je pouvais. Et un jour, on voyageait à Manchester pour faire un mariage et il y avait le taf le dimanche et le mardi. Et le lundi, c'était un jour férié pour nous. Donc, je me balade avec mon pote Omri. Et lui, je lui dis, Omri, on s'en oui, à Manchester. Qu'est-ce qu'on va faire à Manchester? C'était l'hiver, c'était février, tu vois. Et je lui dis, je veux mettre la batterie ici, je vais. Juste pour le kiff. C'est clair qu'ils vont m'arrêter tout de suite. Mais viens, on va essayer. Il m'a dit, OK, viens. Et je me mets à jouer. Et les gens, petit à petit, se mettent autour de moi. Et moi, j'étais sûr qu'on allait m'arrêter. Mais non, en fait, après, j'ai appris que cet endroit-là, c'était un endroit désigné pour la musique de rue à Manchester. Il y avait même un flic qui vient, qui me dit « Oui, tu dois bouger parce qu'il y a une femme qui essaie de se faire coucher son bébé, mais sinon, tu peux continuer. » Elle me serre la main. Donc, c'était incroyable. Donc, j'ai commencé à voyager partout dans l'Angleterre, Londres, Manchester, Liverpool...
Ouais, tu disais que cette rencontre avec ce policier, en fait, toi, tu étais déjà prêt à te dire, bon, ben voilà, ça y est, je me fais remballer, et que tu as été tout étonné quand justement il disait juste, il y a un bébé qui essaie de dormir, est-ce qu'il y a moyen d'eux? C'était trop
super. C'est ça. Et je me rappelle aussi que dans ce voyage-là, j'avais un problème avec ma voiture et j'ai stressé vraiment, oh, comment j'allais payer. Mais là, je m'étais dit, mais tu viens de faire 100 pounds dans une heure, tu n'as pas de problème financier. Et en fait, c'est que mon show dans la rue, il est tellement engageant et les gens ils aiment ça tellement que depuis 12 ans je vis quasiment que de ça. Et imagine-toi l'opportunité, la possibilité de dire ah, j'ai besoin un peu d'argent, bon, je vais aller jouer et puis ça y est, et tu joues, tu te plais, les gens ils viennent avec un sourire. Et ça, c'était...
Tu as appris aussi à engager la foule, hein. C'est peut-être le bon moment pour en parler. Moi, j'ai été victime de ton talent aussi. Donc, je sais quand tu fais... Bon, d'accord, tu chauffes bien et puis tu rassembles les gens. Tu dis, c'est un ami à toi, justement, en Angleterre qui t'a appris ça, de faire venir les gens près de la batterie pour vraiment sentir la vibration. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe.
Tout à fait. Hein. Joe Bucket, qui est un batteur de folie, qui joue dans la rue des Landes, qui vient des Caraïbes. Lui, c'est un caractère... Et lui, il m'a dit, il m'a instruit. Donc, on a commencé à jouer ensemble 6 mois après que je jouais dans la... Il m'a dit, non, on ne joue pas avant qu'il vienne proche. Il a arrêté la musique et dit, come closer. Parce que ça a des raisons. Une fois que tu vois que les gens sont le rythme, et oui, voilà. Et puis là, ils contribuent plus. Donc, ça a une raison spirituelle et financière, ce qui va toujours ensemble.
Eh ben oui, il faut bien gagner sa vie quand même. Mais c'est vrai que c'est quand tu les ressens dans la cage thoracique, ça résonne fort, hein.
Oui.
C'est fort, ça accompagne vraiment bien la danse. Et j'aime bien que tu dis aussi, il y a des moments comme ça où c'est presque une transe collective, où il y a quelque chose qui se passe de bigger than us.
Genau. Ouais. Et puis,
plus que nous.
Pense quand tu penses à ce phénomène de jouer dans la rue, donc tu fais quoi? Tu amènes quelque chose, tu rassembles les gens aujourd'hui dans une période où on est plus en plus éloignés l'un de l'autre. On est plus en plus des étrangers. Regarde, aujourd'hui, il y a cette histoire des vaccins. Moi, ça me rend tellement triste qu'égal si tu es pour le vaccin ou contre. On ne va pas commencer, ce n'est pas le point. Le point, c'est que les gens, ils sont prêts à se séparer à cause de ça. Donc, encore une fois, dans l'histoire de l'humanité, avant, c'était les Juifs, après, c'était les Blacks, avant, c'était quoi que ce soit. Les Russes, ils sont mauvais, les Chinois. Encore une fois, on arrive à nous séparer l'un de l'autre, tu vois. C'est pas drôle. Aujourd'hui, il y a des gens, moi, je suis choqué quand je viens et que je parle avec des gens qui sont pour le vaccin ou contre le vaccin. Je dis pas mon avis, c'est pas le plan. Mais le fait qu'il y a des gens qui sont tellement fâchés, qui pètent les plans. Tu n'es pas vacciné ! Oh, les gens qui pètent les plans parce que tu t'es fait vacciner. Mais laisse-moi vivre. Moi, je serai vacciné ou pas, c'est pas ton problème, tu vois ? Et donc, dans une période où tout est plus en plus digital, tout est, so to say, plus facile, mais c'est pas vrai. Tu peux tout avoir dans le handy, tu peux tout acheter par ton portable, mais ça, c'est pas vrai. C'est d'ailleurs Dostoïevski qui a dit que cette illusion que la technologie, le progrès vont nous sauver de notre souffrance, c'est une des choses les plus mauvaises. Donc aujourd'hui, dans une période où tu penses que tu peux avoir tout avec ton portable, en fait, tu as rien si tu n'as pas la communication. C'est de ça qu'on vit. Après la bouffe et après qu'on doit besoin de toi, de toi au-dessus de notre tête, tu n'as rien si tu n'as pas la communication, si tu n'as pas les êtres humains avec qui tu peux. Et donc, nous, ce qu'on fait entendre des musiciens des Russes, c'est ce qu'ont fait les troubadours il y a 200 ou 300 ans. Mais ils sont disparus. Parce que les troubadours sont devenus des rockstars. C'est devenu des rockstars qui vendent des millions d'albums, qui ont une chance s'ils ne sont pas devenus drag addicts à cause de cette folie. Parce que ce n'est pas naturel qu'un homme qui a écrit quelques chansons devienne multimillionnaire et perdre son contact avec la vie, tu vois. Il y a toute une génération qui va aller là-bas, qui va perdre ce contact, qui va être dans les nuages, qui va être une star. C'est quoi une star? Une star, c'est quelque chose qui est totalement isolé, qui est totalement déconnecté. On regarde Michael Jackson, qui était l'homme le plus talentueux de l'histoire de la musique, tellement misérable. Lui-même, il lui dit ça, d'accord. Donc, c'est quoi cette illusion, tu vois? Moi, je ne veux pas vivre dans une illusion. Moi, j'amène ma musique dans la rue, dans un mariage, dans une grande scène, comme j'ai fait. Tout est pareil pour moi. Moi, je joue pour les gens. Quand tu viens, tu joues dans la rue, tu as la chance de faire quelqu'un qui a vraiment besoin de toi. Il y a une semaine, j'ai joué dans le Hauptbahnhof, la station centrale de Hambourg. Et il y avait des gens avec une souris. Il y avait un homme qui vient, il dit, je suis malade psychique et je n'ai pas d'argent pour acheter ton CD. J'ai dit, tiens, mon CD. Le souris qu'il avait, c'était... J'oublierai ça jamais.
Ouais. Ah, génial. Tu disais aussi que c'est ce que tu aimais quand tu jouais dans les stations de métro ou dans les gares. Enfin, que ça rassemble des gens, aussi bien le mendiant du coin...
Je vais t'étonner encore un exemple pour ma vie quotidienne. Je vais te donner encore. On s'est rencontré à Namur. Donc, Namur, Hambourg, c'est assez loin. Donc, j'ai pris ma voiture et puis j'ai voyagé à Namur et après, j'ai voyagé à Berlin. Et puis, bof, il y a une semaine et demie, ma voiture est tombée en panne. Et en panne assez grave. Mais une fois avant qu'elle est tombée en panne, j'ai joué dans la station centrale. Et il y avait une dame, la dame qui travaille dans mon garage. Mon garage, on dit ça? Le garage, là, on repart la voiture, oui?
Oui. C'est bien ça, oui.
Et elle vient là-bas. Elle m'a vu jouer dans la station. Et je te jure, le sourire qu'elle avait, c'était incroyable. Et en fait, c'est grâce à elle que j'ai pu conduire encore ma voiture parce qu'elle m'a fait un prix. Pourquoi? Comme quoi, je n'ai pas encore utilisé ma voiture parce qu'elle a vu mon show. Donc, tu vois, la musique me sauve tout le temps. La musique, je voudrais dire ça à des gens qui ont envie de faire quelque chose, envie de suivre leur passion. Mais... Oui, parfois c'est difficile, mais il y a quelque chose dans l'univers quand tu y vas... Tu flottes, tu toujours, ça va, tu ne vas pas t'arrêter. Problème des voitures, j'ai toujours eu. Problème d'argent, on a tous, plus ou moins. Ce n'est pas ça qui va te faire arrêter.
Je crois aussi qu'il y a quelque part, parfois, tu as de l'aide qui arrive quand tu en as besoin de manière tout à fait spontanée, inattendue, et que c'est parfois justement ce qui a l'impression qu'il va te rendre la vie difficile, c'est ta passion qui, en fait, t'apporte toute l'aide dont tu as besoin et qui t'accomplit vraiment. Ouais, ça, j'y crois.
Il faut avoir la foi à ça, il faut croire à ça.
Tout à fait. Tu nous montres un peu du Oded cette fois-ci, parce que j'ai des questions de mes petites filles qui étaient très impressionnées par ton rythme, parce que j'ai toujours deux questions de mes petites filles dans les podcasts, donc je leur ai montré ce que tu faisais, et c'était en pleine session dans un parc en Allemagne, et ça dépotait pas mal, quoi.
Alors tu voudras que je te montre quoi, là, live ? Oui, bon, vitesse incroyable sur la batterie, je peux faire ça aussi si tu veux.
Oui, un peu.
On va essayer de faire ça, regarde.
Je viens. Ça, c'est une super intro aux questions de mes filles. Attends, je vais te faire écouter. Alors.
Comment tu fais pour jouer aussi vite avec tes bâtons?
Et je crois que c'est... Et ça vient du fait que je me sentis en tant que gosse un peu lent et un peu... Ouais, un peu lent. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué le speed avec la batterie. J'ai mis des oreillers et j'ai travaillé avec la batterie jusqu'à ce que tu aies vraiment du mal aux muscles. Et là, tu développes petit à petit cette speed.
Ah bah c'est super, c'est un super enchaînement pour la question de ma deuxième petite fille.
Est-ce que ça fait mal aux mains dès que tu tapes avec tes bâtons sur la batterie?
Oui, elles étaient, c'est pas possible, ça doit faire mal aux mains, ils tapent tellement vite. C'était long là, la session, je leur avais montré, elles étaient...
Non, ça fait pas mal du tout, c'est... Plus tu passes du temps avec ton instrument, plus tu deviens souple et... Sans gros efforts.
Oui, mais tu disais, moi quand même, tu sais jouer des 5 heures d'affilée, alors sans problème, mais ça doit quand même...
Ça, oui, ça c'est un don que j'ai. Ça, le don que j'ai, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie, ce qui vient de l'amour pour la musique et pour les gens. Si, pour jouer, si jamais fatigué.
Oh,
et avec la technique, tu apprends à ne pas te fatiguer tout le monde, tu vois. Ce qui est, par exemple, regarde, tu peux... La main gauche, quand tu utilises ça, tu utilises les doigts et les poignets. Ce qui te permet d'aller plus vite sans se fatiguer ton. Et avec des mains. Donc tu veux utiliser le mouvement sans perdre trop d'énergie, quoi, tu vois.
Top. Ah, ouais. Merci pour la petite démo. Cool. J'aimerais bien qu'on reparle de ton projet Drum the World. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? C'est quand même un chouette projet et c'était un bon enchaînement. Avant, on parlait de jouer pour les gens, les sourires que ça apporte, quelle que soit la personne, sa classe sociale, sa condition.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que... Il y a une chanson ici en Allemagne qui le gars il dit The song will write you, you don't write it. La chanson va t'écrire elle-même, c'est pas toi qui l'écris. C'était Drum the World concept. Le nom, il était venu pas par moi. J'ai joué à Tel Aviv, il y avait des gars qui voulaient m'aider avec un poster pour que je mette un poster pour publicité, le marketing et tout ça. Et ils m'ont dit, mais en fait, ce que tu fais, c'est Drum the World, tu vois. Oui, le concept et le rêve, par exemple, c'est juste d'amener la batterie partout dans le monde. Et notamment retourner en Afrique.
Tu m'as aussi donné en préparation, tu m'as donné quelques perles. Hein. J'avais aussi noté quelque chose qui m'a bien décoiffé. Tu dis, on est né avec une majesté, on est des êtres incroyables, c'est seulement la pensée et le système dans lequel on vit qui nous réduit à des numéros, à des chiffres dans la banque, à quelle voiture on conduit ou pas. Alors, qu'est-ce que tu auras envie de dire à quelqu'un qui n'a plus envie de vivre sa vie comme un numéro ou comme un porte-marque?
Ouais, être soi-même, je pense que c'est possible que quand quand tu fonces vraiment dans ta créativité, quand tu fais quelque chose de bien, eh bien, tôt ou tard, tu reçois ton trophée. Tu sais, souvent, quand j'étais à Londres et je jouais dans la rue, il y avait des gens qui m'arrêtaient, qui étaient tellement passionnés par ce que je faisais, tellement impressionnés. Ils me disaient, et là, je leur pose la question. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Et là, ils me disent, un intéressant, I work in the city. Je travaille dans la cité. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent dans le système bancaire ou IT. Et c'est un peu anglais, genre un peu sous-estimé dans une façon. Mais je crois qu'il voulait vraiment dire ça. Ouais, c'est pas intéressant ce que je fais. Je gagne beaucoup d'argent, mais c'est pas intéressant. Tu vois? Je dis pas que chacun qui gagne beaucoup d'argent, c'est pas intéressant. Il y a des gens qui ont tout. Ils gagnent plein d'argent. Ils ont une vie tellement intéressante. Ils sont incroyables. Mais je pense que. Il faut voir, il ne faut pas se jeter à l'eau sans savoir nager, tu vois. Il ne faut pas prendre des risques bêtement, comme il dit Brel. Quand je fais un film, j'ai peur. Quand je fais un concert ou des tours de chant, j'allais vomir chaque fois, j'ai eu peur. Il dit oui, mais pas bêtement. Il dit, ceci dit, un homme qui n'a pas peur, ce n'est pas un homme. Et je trouve qu'il a raison, tu vois. Assumer la peur. Oui, on a peur de « Oh, comment je vais quitter ce boulot que je faisais depuis, je sais pas, 5 ans, 10 ans ?» Eh bien, tu le fais et tu vas voir que tu vas gagner. Fortune favors the brave.
La chance sourit aux audacieux en français, pour ceux qui ne comprendraient pas l'anglais.
Voilà. Ah, ça, je l'ai appris. C'est joli. Et puis des gens, et puis des rencontres, et puis d'amener des gens dans ta vie qui peuvent apporter quelque chose, tu vois, des gens qui peuvent t'apporter quelque chose au-delà de là où tu es. C'est très, très important.
Waouh, magnifique. Je crois que c'est un beau mot de la fin. Est-ce qu'on peut acheter ta musique en ligne?
Oui, je crois, Odette Caffrey, iTunes. Ah ben, le mieux, ce sera que les gens considèrent à me joindre sur Patreon. Pardon que je te pique les...
On va non, pas avoir... Non, il y en a pour tout le monde.
Il y en a pour tout le monde. Genau. Ouais, Patreon, c'est le best pour... Pour quoi que vous voulez. Et puis là, vous allez recevoir de moi ce que vous voulez comme musique. Aussi les updates des musiques nouveaux et tout ça. mais oui, online et puis, ouais, bien sûr.
Yeah, c'est te suivre. Tu publies sur tes réseaux sociaux, tes tournées
où oui,
tu vas?
Oui. Odette Caffrey Facebook, Odette Caffrey Instagram et Odette Caffrey YouTube.
Super. Ah bah ça va, je mettrai les liens utiles dans les notes de l'épisode. Mais
on a quand même pas parlé d'une chose très, très importante.
Vas-y, dis-moi.
C'est le fait que mon plus grand drame peut-être de la vie, c'était que 4 ans et demi après le temps à Londres, je devais partir de Londres parce que je ne suis pas bien arrangé pour avoir une visa. Et donc, je devais partir de Londres. Donc, en fait, je n'étais pas décidé si je voulais rester à Londres ou pas, mais la vie a fait que je devais partir. Et c'était le moment le plus difficile parce que ça allait très bien à Londres. Et moi, je me sentais dégoûté que moi-même, avec quelque chose de sous-conscience, je me suis mis des pierres dans mes rues, tu vois.
Un peu de l'autosabotage.
Autosabotage, oui, un peu peut-être.
À la limite de l'inconscient.
Ouais. Oui, mais en fait, aujourd'hui, donc, j'ai quitté l'Angleterre, j'allais en Israël, je faisais le spectacle de la rue là-bas, et ça n'allait pas pour moi. Je devais continuer avec le voyage. Et donc, je me suis retrouvé à Hambourg, en Allemagne. Là où je suis aujourd'hui. Donc, j'ai appris une nouvelle langue, nouvelle culture, nouvelle rencontre. J'ai pu visiter la Belgique plus facilement. Et en fait, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que cette histoire-là, ça m'a marqué à vie. C'était vraiment très dur. Et c'est seulement aujourd'hui que je comprends que c'était en fait pour mon bien-être. Parce qu'il fallait que je me case. Bon, j'ai rencontré ma femme, qui aujourd'hui, on a une fille ensemble. Donc, une vie de famille est très importante. Et donc, je voulais dire... Quand il se passe quelque chose dans la vie qui vous fait un peu « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» c'est pas du tout ce que j'ai planifié. Peut-être que vous n'avez pas les planifiés, mais il y a une raison pour ça et ça va se faire comprendre plus tard. Tu vois ? Encore et encore, Jacques Brel, il toujours encourageait les gens pour aller voyager, pour aller voir au-dessous de la colline. Et je suis avec lui. Je ne suis pas tellement extrême comme lui. Parfois, je n'arrive pas à le comprendre, mais... C'est possible. C'est possible de vivre une vie de rêve. Parfois, ça a l'air très dur. Parfois, ça a l'air comme un cauchemar. Mais tu te donnes de mal, tu t'en sors. Et puis là, c'est le plus bel moment. Moi, j'ai eu des moments... Tu sais, parfois, je regarde, ça fait 12 ans que j'ai parti d'Israël. Enfin, je regarde, je dis waouh, j'ai tellement ramé Londres, Angleterre, et l'Allemagne, la froideur, je joue dans la rue, j'ai des problèmes avec des flics parfois, des... quoi que ça. Mais j'ai dit, mais regarde les expériences, les concerts que tu as fait, les rencontres que tu as fait. Jamais je les changerai. Donc, ça vaut la peine.
Ouais, super. Ouais, j'adore ce que tu dis. Vraiment. C'est vrai que ça m'a... c'est ça qui m'épate aussi dans ton parcours, c'est que c'est entre guillemets tombé plusieurs fois, mais tu t'es toujours relevé, tu as toujours cru en ton parcours, tu as toujours continué. Et après, looking back, en regardant, tu t'es toujours dit, bah, finalement, tout est bien comme ça.
Oui, et puis tu sais quoi, Anne-Bé, je pense qu'en tant qu'être humain, on n'a pas vraiment la possibilité de se regarder nous-mêmes. On a besoin de l'autre, de projeter. Donc, quand on est en train de faire cette podcast-là, et que je vois toi et tes réactions, et ce que tu dis, et que j'entends moi-même et mon histoire, ça projette envers moi. Et ça me donne une raison d'être, tu vois, plus. Donc, il ne faut pas oublier aussi que quand vous êtes dans le chemin, vous n'apercevez pas tout ce qui se passe. Ouais. Il faut parfois accepter que ce n'est pas tout, tout joli, joli et tout est génial, génial. Mais qu'à la fin des choses, pas à la fin, il y a des choses, comme il y a des révélations, des moments où vous êtes totalement « wow, so happy ».
Ouais, ça c'est la magie. Eh bien écoute, Ded, un super grand merci pour cet épisode. J'ai adoré le faire avec toi. Je suis super contente de savoir que tu reviens à Namur bientôt. Welcome, hein, tu es chez moi comme chez toi, hein, merci, si tu veux.
J'ai préparé une version danse des Les Moribonds de Jacques Brel. Oui.
Allez,
je prépare pour le festival. Elle n'est pas encore tout à fait prête, mais tu vas l'entendre soit dans le festival, soit dans le rue de Namur.
Ah bah super. Eh bien, je te souhaite une bonne journée et à très bientôt alors.
Au revoir tout le monde.
Merci. Au revoir, merci. J'espère que vous avez aimé écouter cet épisode autant que j'ai aimé l'enregistrer. Merci encore à toi, Odette, pour ton temps, ta musique et au plaisir de te croiser à nouveau. Dans les rues, évidemment, j'en ai les pieds qui dansent à l'avance. Comme toujours, je vous mets les liens mentionnés dans l'épisode dans les notes et sur la page web qui lui est consacrée. Il y a des vidéos, des sons évidemment, et le lien vers son site web où vous pourrez entre autres voir où il tourne en ce moment. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Alors partagez sur vos réseaux, envoyez la page de l'épisode à un ami qui cela intéressera. C'est grâce à vous que ce projet pourra se transformer en forêt. Toutes les explications sont sur storylifique.com. À bientôt !